Je voulais vous parler aujourd'hui de la deuxième épître à Timothée. Alors, nous sommes allés récemment, Annie et moi, avec aussi Sergio, donc à la pastorale de notre association baptiste, et notre orateur qui s'appelait David Jackman nous a dit que si on levait l'inviter à faire des prédications suivies dans une église, il suivrait d'abord l'évangile de Marc, parce qu'il dit que l'église a toujours besoin d'un rappel à l'évangile. Et puis qu'ensuite, il ferait la deuxième épître à Timothée, parce que l'église a toujours besoin d'un rappel au service. Comme Jean nous permet de suivre l'évangile de Jean, petit à petit, j'ai pensé que je pouvais suivre le deuxième conseil, et je vous invite à commencer une série d'études sur la deuxième épître à Timothée. Car nous sommes les serviteurs de notre maître, nous avons un service à accomplir, et nous devons le bien faire. Je vous invite déjà à lire ce premier chapitre de la deuxième épître à Timothée. J'ai intitulé ce chapitre 1 « Dans notre fragilité, puisons nos forces dans la grâce de Dieu ». De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre en notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendus à Éphèse. Paul est à la fin de sa vie. Il en est conscient, il le sait. Il est emprisonné à Rome et il écrit à Timothée, Timothée qui est à Éphèse, qui est le pasteur, pourrons-nous nous dire, de l'église d'Éphèse. C'est la dernière lettre connue de l'apôtre Paul. Une sorte de dernière recommandation avant de s'en aller. Et cet épître nous montre que la vie est difficile pour Paul et qu'elle est aussi difficile à Éphèse. Alors qu'est-ce qui se passe à Éphèse ? Parce qu'on voit que Paul est inquiet dans cet épître. Ce n'est pas une épître triomphante. Ce n'est pas une épître « Regarde, Timothée, les belles choses que j'ai accomplies dans ma vie d'apôtre. Regarde toutes les églises que j'ai fondées. Regarde comme elles marchent bien. » Non, ce n'est pas une épître comme ça. C'est une épître où Paul est inquiet. Qu'est-ce qui se passe à Éphèse ? Donc, nous pouvons le reconstruire à travers le texte de la lettre. Donc, je vais vous citer des passages qui sont plus loin dans l'épître, mais qui donnent un peu le ton général. Surtout, Paul pense que son ministère d'apôtre est menacé. C'est-à-dire que son autorité en tant qu'apôtre n'est plus reconnue à Éphèse, au moins par certains. C'est pour ça que déjà le verset 1 définit Paul comme apôtre. Paul se pose en disant « Je suis apôtre, envoyé par le Christ Jésus ». Et envoyé aussi par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le seul appel valide pour un ministère, pour celui de Paul, mais pour le nôtre aussi. Et Paul est le messager de la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est qu'une promesse ? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Et cette promesse, elle est en Jésus-Christ, celui qui est ressuscité. Alors, qu'est-ce qui motive les inquiétudes de Paul ? D'abord, l'abandon massif de ses collaborateurs. On a lu, hein, comme tu le sais, tous ceux de la présence d'Avis m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Et puis, plus loin dans l'Épître, au chapitre 4, il dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. » Il s'agit d'un abandon de Paul et de son enseignement. Oh, on peut imaginer des raisons, hein. Paul, mais il est vieux. C'est un homme du passé. Il nous a appris certaines choses, mais maintenant, on a fait des progrès. On sait utiliser des concepts que lui ne nous avait pas donnés. Il faut être moderne. Ou alors, Paul, mais c'est un malfaiteur. Il est en prison. C'est certainement que Dieu n'approuve pas ce qu'il a fait. Sinon, il ne serait pas en prison. Voilà, on peut imaginer hein, des choses comme ça. Et puis, il n'y a pas que l'abandon des collaborateurs. Il y a aussi des enseignements faux. Et parmi ces enseignements faux, on a ceci, chapitre 2, verset 17, « La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection avait déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. » Des faux enseignants qui enseignent de fausses doctrines et qui enseignent que la résurrection a déjà eu lieu. Là aussi, on peut comprendre. Éphèse, c'est un milieu où la pensée grecque est répandue. La pensée grecque, c'était de dire « tout ce qui est bien, c'est l'âme ». C'est l'esprit. Le corps, c'est du matériel. C'est mauvais. Et du coup, comment, quand on a cette arrière-pensée, comment accepter la résurrection du corps ? On ne peut pas accepter ça. Alors ces gens s'étaient dit, mais la résurrection, elle a déjà eu lieu. Lorsqu'on donne sa sa vie au Seigneur, et ben ça y est, on est ressuscité. Et puis après, il n'y a plus rien à attendre. Et puis, il y a des temps difficiles qui s'annoncent, et Paul le sait. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomnateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, gardant la forme extérieure de la piété, mais en reniant la puissance. Heureusement, notre époque n'est pas comme ça. Hein. Non. Hein. Éloigne-toi de ces gens-là. L'amour de l'argent remplace l'amour de Dieu. Mais certains gardent une apparence de piété. Mais une apparence. Une coquille vide, sans la foi. Et puis, non seulement il y a des enseignements erronés, comme on a vu, mais il y a aussi des enseignements fantaisistes. On trouve ça à chapitre 4, verset 3. « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. » Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Des enseignements qui plaisent, même s'ils sont loin de la parole de Dieu, afin de satisfaire les divers désirs des hommes. Ce qui est grave, c'est que Paul fait ce constat d'une église, pas de la société, d'une église, des gens qui sont dans une église. Avec des gens qui abandonnent Paul, des gens qui enseignent des choses fausses et des gens dont le caractère n'est pas renouvelé par le Seigneur. Alors évidemment, ce tableau, c'est celui d'Éphèse, mais il ressemble quand même beaucoup à l'époque où nous vivons, en Occident. Et on peut voir dans nos églises aussi des traits de ce qui est décrit ici. Nous-mêmes, est-ce que nous sommes à l'abri des divers reproches que Paul fait à l'église d'Éphèse ? Probablement pas. Donc écoutons les enseignements de Paul, les mises en garde et ses conseils. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer Paul pour cette église d'Éphèse ? Eh bien, heureusement, à Éphèse, il y a Timothée. Face aux inquiétudes de Paul, il y a la personne de Timothée. Et Paul a des raisons de remercier Dieu pour la personne de Timothée. Timothée, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été converti à Lystre lors du premier voyage de Paul. Lystre, ça serait au milieu de la Turquie actuelle. Il a accompagné ensuite Paul pendant ses voyages pendant au moins 15 ans. Maintenant, il est à Éphèse comme pasteur et enseignant, comme Paul le lui a demandé. On voit ça dans la première lettre à Timothée où il lui dit « Reste à Éphèse ». Et Timothée, pour Paul, c'est « mon fils bien-aimé ». Et on voit toute l'affection de Paul pour Timothée et son désir de le soutenir. Est-ce que nous pensons à nous dire notre affection, à nous encourager réciproquement, à dire Arthur, j'ai mis un prénom fictif, parce que si j'en avais mis un là, les autres auraient dit oui, mais moi. Hein? Arthur, mon frère bien-aimé, Philomène, ma sœur que j'aime et que je veux encourager, mettez votre propre prénom à la place. N'oublions pas de nous encourager les uns les autres. Surtout, vous avez peut-être remarqué, nous sommes devenus un petit troupeau. N'oublions pas de nous encourager. Et puis, je rends grâce à Dieu, dit Paul. Paul, avant tout, remercie le Seigneur pour toutes les choses bonnes qu'il lui a données. Et ici, les choses bonnes, c'est la personne même de Timothée et l'affection de Timothée pour lui. Et un secret pour nos réunions de prière, mais aussi pour notre prière personnelle. Commencez par remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, avant de lui exposer ce qui nous manque. Il y a quelques années, enfin un peu longtemps maintenant, je suivais une religieuse dans la maison des religieuses de Pommiers, qui n'existe plus maintenant, et qui me disait que tous les soirs, elle faisait sa prière. Et qu'elle commençait par remercier Dieu pour tout ce qu'il lui avait donné de bon dans la journée. Et une des choses pour lesquelles elle le remerciait Dieu, « Merci Seigneur, j'ai pu sortir de mon lit ce matin. » Voilà. Et elle remerciait Dieu pour tout ce qu'il lui avait donné de bon dans la journée. Et elle me disait, « En général, je m'endors avant d'avoir trouvé les sujets de me plaindre. » Et cette communion de Paul avec Timothée, elle est basée sur la foi sans hypocrisie de Timothée. Et cette foi, elle a une origine. La mère et la grand-mère de Timothée. Allez les mamans. Courage les mamans. Courage les grand-mères. Y compris les grand-mères d'adoption. Ou les mamans d'adoption, ou les mamans de spirituelles, toutes les personnes qui partagent l'Évangile, qui partagent la foi avec des personnes plus jeunes qu'elles peut-être. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Quand j'ai commencé à réfléchir sur la deuxième épître à Timothée, je n'avais pas fait attention que Paul parlait de la mère et de la grand-mère, mais ce n'est finalement pas une mauvaise idée. Hein ? Voilà. Mais pas que les mamans. En ce moment, il y a, dans la pièce à côté, il y a un enseignement pour les enfants. C'est bien, mais ça ne doit pas remplacer ce qui se fait à la maison, ce qui se dit à la maison. Hein ? Et j'encourage, je voudrais encourager tous les parents et tous les grands-parents d'être des témoins de l'Évangile. Pourtant, pour Timothée, il y a aussi des raisons de s'inquiéter. D'abord, il n'est pas toujours en bonne santé. Enfin, là, on ne le voit pas dans la deuxième épître à Timothée, mais dans la première, où Paul lui parle de ses fréquentes indispositions. Et il lui conseille, pas forcément un conseil de Toubib, hein, de boire du vin. Et puis, le don de Timothée doit être développé. On l'a lu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Timothée et peut-être découragé. Découragé parce que dans son église, ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'il aurait souhaité. Il est peut-être un peu timide aussi, on ne sait pas. En tout cas, il a besoin que la mission que Paul lui a confiée, il a besoin de la revivifier. Il a besoin de se réveiller. Il a besoin d'encourager. Et notre flamme en nous, elle en est où ? Vous savez, sur les gazinières, il y a un bouton. On peut être sur la veilleuse. Le minimum syndical pour un chrétien, la veilleuse. On va au culte, voilà, puis c'est tout. Ou alors, notre flamme, elle peut être plus vive. Elle peut être sur feu doux. Elle peut être aussi sur pleine lumière, pleine force. Où en est notre flamme? Pour nous, peut-être, il ne suffit pas de tourner le bouton, mais il faut ranimer la flamme. Et pour la ranimer, il faut peut-être la protéger de ce qui peut la perturber. Il faut l'alimenter par la parole de Dieu, il faut l'oxygéner par le Saint-Esprit qui vient lui apporter son souffle. Alors Timothée doit aussi s'approprier la puissance de Dieu. Et Paul lui dit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons des dons, chacun de nous en a. Ne les abandonnons pas par timidité ou par crainte. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, c'est notre responsabilité de faire appel à son esprit. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, donne-nous le courage. Seigneur, donne-nous la force. L'esprit nous donne, mais nous devons nous approprier ses dons. Force, amour, sagesse. Voilà de quoi alimenter notre flamme. Et puis, il ne doit pas avoir honte, Timothée. Heureusement, c'est quelque chose qui nous effleure jamais, ça, la honte. Ni la crainte. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Sommes-nous prêts à souffrir pour le témoignage? Ne serait-ce qu'un peu de honte, un peu de rougeur sur les joues, parce qu'on est un peu ringard vis-à-vis de notre société. En tout cas, nous voyons que la puissance de Dieu est toujours portée dans la faiblesse d'un serviteur humain. Recherchons la puissance dans la grâce de Dieu et pas dans nos propres ressources. Alors si Timothée a des raisons de s'inquiéter, il a aussi des points d'appui, des raisons d'avoir confiance. Et dans ces points d'appui, il y a la nature et la puissance de l'Évangile. C'est lui qui nous a sauvés, nous a adressé un saint appel. Lui, c'est Dieu, hein. Il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant l'état éternel. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. L'Évangile de Dieu est sauveur. N'oublions pas les bases. Des fois, on a tendance à oublier les bases. Même Timothée. Vous vous rendez compte que Timothée, dans le chapitre suivant, Paul va lui dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est un peu fort quand même. Vous faites une lettre à un pasteur, un responsable d'église, et vous lui donnez comme conseil « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Comme quoi il faut toujours revenir à la base. Timothée, tu as reçu un saint appel. Regarde ce que Dieu a accompli par l'Évangile. Il nous sauve, il nous motive dans la sainteté. Regarde son projet de grâce du début jusqu'à la fin. Regarde, Timothée, c'est du solide. Et un peu plus loin, il va dire, et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul avait dit à Timothée, n'aie pas honte. En tout cas, moi, je n'ai pas honte, dit Paul. Je n'ai pas honte parce que je sais en qui j'ai cru. Nous ne croyons pas à des dogmes. Nous croyons en une personne. Il sait en qui il a cru. Revenons donc aux fondamentaux, la puissance de l'Évangile qui sauve, Dieu qui appelle chacun de nous, la totale fiabilité de notre Seigneur et sa personnalité. C'est lui qui a fait toute chose. Et puis, Timothée a aussi pour point d'appui le modèle des saines paroles. Il y a très longtemps que je lis la deuxième épître de Timothée et j'avais toujours lu les modèles des saintes paroles. Et en fait, elles ne sont pas saintes, elles sont saines. Et quand on voit qu'est-ce que c'est que les saines paroles, donc Paul dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Et quand on voit plus loin, on voit que Paul fait allusion à la façon dont il a enseigné, à l'amour qu'il a témoigné pour Timothée et pour les hommes qu'il enseignait. Alors, soyons des personnes qui disent ce qu'elles sont et qui sont ce qu'elles disent. Qu'il n'y ait pas de divorce entre ce que nous voulons enseigner et ce que nous vivons dans notre cœur. L'Esprit nous permet d'être des émetteurs et des récepteurs de bonnes paroles, c'est-à-dire des paroles vraies, mais aussi dites dans l'amour. Et puis le troisième point d'appui pour Timothée, c'est que il y a des frères fidèles. Toute l'église d'Éphèse n'est pas en train de délirer sur le fait que la résurrection est déjà arrivée. Il y a des frères fidèles. Et on voit que Paul va les citer, et notamment cette famille d'Onésiphore qui l'a consolé. Timothée va avoir besoin de courage pour mener un combat contre des faux docteurs, contre des faux enseignants. Et dans ce combat, il pourra s'appuyer sur les personnes qui ont montré leur fidélité à Paul. Alors je m'interroge, est-ce que je suis un soutien pour mes frères? Pour ceux qui souffrent? Pour ceux qui sont dans le doute? Pour ceux qui sont enchaînés comme Paul l'était, quelle que soit leur chaîne? Est-ce que je suis un soutien pour mes frères? Je voudrais résumer ce que nous a appris ce premier chapitre. Quelques enseignements pour nous. Nous sommes faibles. Qui d'entre nous, ici, ce matin, se sent fort? Allez, levez-vous. D'accord. Nous sommes faibles, donc. Ce n'est pas parce que je suis debout que je me sens plus fort que vous. Mais nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile. Et pour mener cela à bien, nous avons des armes, entre guillemets, la puissance même de cet Évangile. Et cet Évangile que nous devons porter avec des saines paroles, c'est-à-dire des paroles conforme à la vie que nous menons et une vie que nous menons conforme à ses paroles. Et puis nous devons nous soutenir, nous encourager mutuellement. Et tout cela grâce au Saint-Esprit qui habite en nous avec cette possibilité d'appuiser ses forces, cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et une mention spéciale pour les mères qui enseignent l'Évangile à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et puis, même si ce n'est pas le jour, les pères aussi, on peut les remercier. Je vous invite à prier. Seigneur, cette église d'Éphèse où vivait Timothée ressemble étrangement à la société dans laquelle nous vivons. Et tel que Timothée, nous nous sentons dépassés, dépassés par le défi qui est devant nous, d'apporter un évangile clair et pur à des personnes qui ne veulent pas l'entendre, ou qui veulent l'entendre, ou qui veulent entendre des tas de choses curieuses. Seigneur, si nous sommes dépassés, nous avons aussi tes exhortations, celles de Paul, de ne pas laisser tomber, de ranimer la flamme du don de Dieu que nous avons reçu, de ne pas nous décourager parce que tu nous donnes un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donne-nous de vivre de cet esprit et de pouvoir aussi en parler. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Amen.